Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Bijoux d'amour, c'est le titre que Dominique Bonnat, de l'Académie française, a donné à son article paru dans Madame Figaro. Il illustre à merveille mon propos, puisque c'est aux bijoux qu'est consacrée cette nouvelle émission. Dominique Bonnat vient d'écrire « Je suis fou de toi », le grand amour de Paul Valéry paru aux éditions Grasset. Elle raconte « Faute de pouvoir lui offrir des bijoux, ce sont des poèmes que Paul Valéry envoyait à Jeanne Voilier, son dernier amour. Des poèmes aussi scintillants que des parures de pierres précieuses. Elle les revendrait un jour aux enchères à Monte-Carlo pour le prix d'un diamant très pur. » Sans complexe ni remords, elle déclara à la presse que ce cadeau posthume aurait été doux au cœur du poète, lui qui n'avait pas eu les moyens de la couvrir de joyaux de son vivant. Il est vrai que Jeanne Voilier adorait les bijoux et que les hommes, mis à part Valéry, lui en offraient beaucoup. L'un de ses grands chagrins fut de perdre au cours d'un naufrage en Méditerranée la cassette qui les contenait presque tous. Elle aurait pu y perdre bien plus, sa vie. Mais elle resta inconsolable de la disparition de ses bracelets, bagues et boucles d'oreilles qui lui rappelaient ses amours. Mademoiselle Chanel mettait en garde contre l'abus des bijoux qui peut nuire à l'élégance. Elle préféra longtemps les bijoux fantaisie, dont les irrésistibles bracelets menottes de Fulco di Verdura qui préfigurent les manchettes d'aujourd'hui. Mais quand Gabrielle Chanel se mit à jouer avec les vrais diamants, ce furent pour créer des parures de féerie, d'une pureté d'autant plus éclatante sur une petite robe noire ou sur la peau nue. Une belle leçon à retenir, la simplicité peut être somptueuse. Le temps des cocottes est bien fini, celui aussi des belles de nuit qui ressemblent à des sapins de Noël. Au casino de Monte-Carlo, où Jeanne Voilier vendit ses poèmes, eut lieu vers 1900 un concours de muses. La plus richement parée, Caroline Otero, couverte de la tête aux pieds de perles, de diamants et surtout d'émeraudes, sa pierre fétiche, se croyait déjà victorieuse. Quand apparut sa rivale, Liane de Pougy, sublime et provocante, dans une robe de mousseline blanche. Elle ne portait aucun bijou. Mais derrière elle, à quelques pas, sa femme de chambre, croulant sous le poids de l'or et des pierres, arborait tous les joyaux offerts à Liane par ses innombrables amants. Parmi eux, un collier de perles à 7 rangs. Je dois l'avouer, ces 7 rangs de perles m'ont toujours fait rêver. Qu'est devenu ce merveilleux bijou ?
When the mellow moon begins to beam, every night I dream a little dream. And of course, Prince Charming is the theme.
Quant à l'heure des rois, c'est Breguet qui l'a donné. Arrivé à Paris en 1762, Abraham Breguet vit les derniers feux de Versailles, la Révolution, l'Empire, avant de connaître la gloire sous la Restauration. Les montres de cet apprenti neuchâtelois, devenu maître horloger français, vont marquer les heures les plus mouvementées de notre histoire. C'est François Billot qui écrit cet article pour Point de vue. Au début de l'année 1794 en Suisse, où il a trouvé refuge, Abraham Louis Breguet reçoit un courrier du comte Axel de Fersen. « Vous vous rappellerez peut-être, monsieur, que j'ai encore une montre militaire de vous en argent. Je suis assez heureux pour posséder aussi une montre d'or, de celle qui se monte toute seule, que vous avez faite, je crois, en 1784 ou 1785 pour la reine. » Savez-vous ce qu'est devenu la montre que portait l'infortuné ? Si vous pouviez la découvrir et me la procurer, vous me feriez un grand plaisir. » L'horloger se souvient parfaitement de ce mouvement, le numéro 179, monté dans un petit boîtier d'argent. Livré à la prison du temple, il a compté les heures du martyr de la souveraine. Il ne peut pas dire en revanche ce qu'est devenu l'objet. En août 1793, au plus fort de la terreur, Breguet a fui Paris, quelques semaines avant l'exécution de la reine. Suspect, Abraham Louis l'est à plus d'un titre. Proche des Girondins, il a accompagné leur chute. Et ce Neuchâtelois, arrivé en France à l'âge de 15 ans, est depuis les années 1780 l'horloger favori de Marie-Antoinette et de ses belles-sœurs, Madame Élisabeth et la comtesse de Provence et du duc d'Orléans. Louis XVI, amateur éclairé de mécanique de précision, est tout aussi fasciné par ces innovations. Remontage automatique de la montre perpétuelle, ressort, timbre et parchute. Le roi s'est personnellement offert une Breguet pour la somme de 1680 livres. Et en 1783, un officier anonyme de la garde royale a passé commande, sans limite de budget, d'une montre pourvue de toutes les complications connues, où l'or doit supplanter les autres métaux. Probablement commandée pour la reine, la Marie-Antoinette ne sera finalement achevée qu'en 1827. Elle ne verra donc jamais la Marie-Antoinette achevée plus de 30 ans après son exécution. Mais Breguet livre une autre montre à l'infortuné qu'Axel de Fersennes tentera de retrouver. Entre-temps, Breguet a retrouvé son atelier parisien du Quai de l'Horloge, sur l'île de la Cité. Les tempêtes de la Révolution calmées, il doit répondre aux désirs d'une nouvelle clientèle, tout aussi exigeante que celle de l'Ancien Régime. En avril 1798, un jeune général achète une montre à répétition, une montre perpétuelle et la toute première pendule de voyage, sur laquelle il compte les heures et les jours avec almanach et phase de la lune, avant de s'embarquer pour la campagne d'Égypte. Comme en témoignent ses acquisitions, Bonaparte attend son heure et il ne la manquera pas. Sa ravissante épouse est une cliente tout aussi assidue. Le 29 pluviose de l'an 8, la citoyenne Bonaparte jubile en contemplant sa dernière folie, la toute nouvelle montre à tac de Breguet. Du bout de l'index, Joséphine caresse l'émail bleu si délicat et surtout la petite flèche en diamanté qui permet, élégance suprême, de lire l'heure à l'aveugle sans sortir le bijou de sa poche. La belle soupire d'aise. Seulement 3000 francs, c'est une rente. Il va falloir mentir un peu, sinon Bonaparte se mettrait en colère. 5 ans plus tard, Napoléon Ier règne sur la France et l'Italie. Et son impératrice et reine, Joséphine, ne saurait se contenter des diamants ridiculement modestes qui marquent les heures de sa montre à tac. Elle retourne le bijou à l'horloger qui les remplace par 12 belles grosses pierres, bien saillantes. La montre scintille comme une étoile. Sa Majesté impériale et royale, enchantée du résultat, fait encore sertir le précieux boîtier du chiffre H, couronné de diamants, avant de l'offrir à sa fille Hortense, la nouvelle reine de Hollande. Si Napoléon couronné boude l'horloger, probablement en raison de son succès en Angleterre, les autres membres de la dynastie se montrent fidèles. Joseph, roi d'Espagne, Louis, roi de Hollande, et Élisa, grande duchesse de Toscane, commandent leur montre chez Breguet. Leur frère Jérôme, promu roi de Westphalie, acquiert 12 pièces en 4 ans. Commande dérisoire cependant, en comparaison de celle de leur petite sœur Caroline, épouse de Joachim Murat. L'horloger va réaliser 34 pièces pour la jeune reine de Naples et inventer à son attention, en 1810, la toute première montre-bracelet de l'histoire.
Thank you.
Avec le retour des Bourbons sur le trône de France, Breguet renoue avec les faveurs du pouvoir. En 1815, Louis XVIII le nomme au poste prestigieux d'horloger de la Marine royale. Il entre, toujours par ordonnance royale, à l'Académie des sciences, avant de recevoir en 1819 les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains du souverain. Le roi fait l'acquisition d'une montre à deux mouvements et son frère, le comte d'Artois, futur Charles X, d'un luxueux garde-temps à répétition. Un document conservé dans les archives de la maison précise que ce dernier prince est alors en possession de la fameuse montre de Marie-Antoinette, tant désirée par Fersen aux heures sombres de la Révolution. Breguet est alors au sommet de son art. Le régent d'Angleterre, futur George IV, achète l'une des six pendules sympathiques. Un ingénieux mécanisme dont l'horloge-mère règle et remet à l'heure la montre enfant qui vient se loger dans un berceau à son sommet. Elle est toujours conservée dans les collections de la reine Élisabeth II. Les créations de Breguet, comme son esthétique aux lignes épurées, séduisent à une époque où la surcharge décorative est la règle. Quand l'horloger s'éteint à l'âge de 76 ans, en septembre 1823, il n'est pas un grand monarque qui ne possède une de ses œuvres dans ses collections. Du sultan Selim III, dans son palais stambouliote de Topkapi, au tsar Alexandre Ier de Russie. Il y a aussi les joyaux de Van Cleef et Arpels. De la Chabanou Faradiba à l'impératrice Joséphine, Van Cleef et Arpels, la maison de la place Vendôme, apparaît les plus puissantes femmes du monde. Léna Luto raconte dans le Figaro « Pour qui aime rêver devant les parures de têtes couronnées et des stars de Hollywood ?» Le documentaire de Vincent Mélan, rédacteur en chef, chargé de la royauté, au magazine Point de vue et éminent spécialiste de la place Vendôme, tombe à pic. Diffusé sur Paris Première, il est entièrement dédié aux parures mythiques de Van Cleef et Arpels. L'avant-première du documentaire, aussi royal que glamour, avait été organisée chez Christie's à Paris, mi-décembre. Pour des raisons de sécurité évidentes, tous les invités devaient être là avant l'arrivée de la star du film, l'ex-impératrice d'Iran, Farah Diba, qui vit entre Paris et Washington. Sur l'estrade de la salle des ventes, un écran de cinéma remplaçait les commissaires-priseurs. D'élégants vieux messieurs de la diaspora iranienne et toute la place Vendôme, dont Nicolas Boss, président de Van Cleef & Arpels, avait fait le déplacement. Entouré de ses deux dames de compagnie, la Chabanou fait une entrée majestueuse en tailleur gris, les cheveux noués en queue de cheval. Une musique orientale retentit. Et le film débute avec les images de son fastueux couronnement au palais du Golestan à Téhéran en 1967. La caméra zoome sur la couronne, montée dans un atelier secret au sous-sol de la Banque nationale iranienne. Rapportée en Iran comme butin de guerre en 1737, ses saphirs, rubis, perles, émeraudes et diamants ont interdiction de quitter le pays. Assise dans un fauteuil de cinéma blanc-crème, l'ex-impératrice d'Iran se penche en avant, montre un détail du doigt. « Ces images, je les avais vues sur Internet, mais jamais sur grand écran », confie la Chabanou de sa voix rauque, dans un français parfait. Les joyaux, elle ne les a plus. Lors de son départ précipité en exil en 1979, elle les a laissés dans les coffres de la Banque nationale à Téhéran. « J'ai eu peur qu'ils soient déménagés pendant la guerre Iran-Irak, mais ils y sont toujours », dit-elle. « Même si c'est ma couronne, j'espère qu'une autre la portera dans le futur. » Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Roland Richard dans les studios du Rocast de Radio Grand Ciel.